Le Salon des maires et des collectivités locales à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Immo, sur Radio Territoria. On est ravis de vous retrouver pour une émission spéciale. Dans quelques semaines, essayez, je classe tout en studio, dans quelques semaines, du 18 au 20 novembre, se tiendra à la Porte de Versailles le Salon des maires et des collectivités locales. C'est le plus grand événement national dédié aux collectivités et à l'action locale. C'est le lieu où les territoires peuvent s'exprimer. Le thème de cette édition 2025 sera « Le meilleur en commun ». Il propose de placer les coopérations, l'innovation et le bien vivre ensemble au cœur des mandats à venir. Pour mieux comprendre justement ce que le salon va offrir, particulièrement sur le volet social et l'implication des collectivités vis-à-vis des aînés, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Guettorant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du salon et Pierre-Olivier Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. On va commencer par planter le décor. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette 30e édition du salon, nous exposer ce que ce salon 2025 veut incarner? Quels sont les grands axes que vous souhaitez mettre en lumière cette année?
Alors, c'est une année particulière et c'est vrai que dans l'actualité, elle aura un rôle aussi assez central pour se concentrer sur l'action locale, comme vous le disiez. Nous avons choisi cette année le thème du meilleur en commun et nous nous félicitons d'avoir choisi ce moment qui va offrir aussi une parenthèse pour se concentrer sur finalement les coopérations, les projets, les initiatives locales qui sont portées par les collectivités et leurs partenaires qui sont les associations et les acteurs économiques, bien sûr, qui œuvrent au quotidien avec les équipes locales. Donc, cette année, elle va effectivement être dédiée à de nombreuses thématiques, comme d'habitude, puisque vous savez que le salon rassemble 1400 exposants, accueille 60 000 visiteurs sur l'ensemble des investissements des collectivités, hein, que ce soit la construction, l'aménagement, l'énergie, l'environnement. Donc, la transition écologique sera un axe encore très très fort de notre événement, avec également le salon de la biodiversité. Et puis les actualités nous amènent aussi à nous concentrer sur une forme d'innovation dont on parle finalement assez peu. On se concentre souvent sur la technologie et nous, cette année, nous avons choisi de mettre en avant l'innovation sociale et le bien vivre ensemble avec un certain nombre de thématiques dont nous allons pouvoir parler aujourd'hui, notamment se concentrer aussi sur les investissements qui vont devoir accompagner nos parcours de vie et le thème de la longévité qui est un axe fort de cette prochaine édition.
Alors, il y a une journée entière dédiée à l'innovation sociale hein, qui sera le 19 novembre en partenariat avec la Fondation La France S'engage. Quel est l'objectif de cette journée pour vous? Qu'est-ce que vous vouliez mettre en lumière?
Alors, l'innovation sociale, on en a sur les trois jours, mais c'est vrai que nous avons voulu concentrer l'attention de l'ensemble des participants de l'événement et également des médias sur l'innovation sociale avec cette initiative qui va mettre en avant les acteurs qui, justement, œuvrent sur ces sujets à nos côtés aussi depuis un certain nombre d'années, donc les mettre en avant, valoriser les projets et les solutions. Et l'innovation sociale, c'est un axe qui est assez fondamental parce que ça met en avant la coopération. Et la coopération, c'est vraiment un savoir-faire des collectivités. C'est vraiment une des compétences sans doute les plus fortes qu'ils ont de travailler avec un écosystème très large. Donc valoriser les coopérations, ne pas valoriser la technologie pour une fois, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on met beaucoup en lumière les technologies. Mais en fait, avec l'innovation sociale, on a aussi des réponses qui sont adaptées, qui sont agiles et qui répondent aussi dans un contexte où on parle beaucoup de budget, de préoccupations sur les financements. L'innovation sociale, elle est accessible et elle peut en fait se répandre sur l'ensemble de nos collectivités, dans les métropoles jusqu'aux territoires ruraux. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est de pouvoir présenter cette thématique plus largement.
Alors Pierre-Olivier, est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission essentielle de Réseau francophone des villes amies des aînés et le lien entre vieillissement démographique, qualité de vie et innovation territoriale?
Oui, alors la démarche Ville et collectivités amies des aînés, c'est un programme qui a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé en 2010 Et le réseau francophone s'est créé en 2012 et ça fait donc une dizaine d'années qu'on est un programme affilié auprès de l'OMS. La question, elle est relativement simple, hein, c'est d'observer qu'au niveau international, c'est-à-dire que la France s'est pas isolée, on fait partie d'un mouvement extrêmement large sur laquelle la longévité, on peut s'en réjouir au niveau individuel, parce que on va durer plus longtemps et en bonne santé, faut quand même se le redire. Et en même temps, l'équilibre des générations change au niveau des territoires, quelle que soit la taille des territoires. Et donc ça veut dire qu'il faut penser ce territoire pour l'aménager pour toutes les générations. Ça veut dire aussi que de ce fait-là, il faut certainement changer le regard qu'on pose sur le vieillissement, sur les personnes âgées. Être vieux, ça n'est pas que être en situation de difficulté, ça n'est pas que des personnes qui doivent être accompagnées, c'est d'abord des habitants qui prennent de l'âge, qui sont autonomes, qui ont une capacité à vivre et à s'investir pour le territoire. Et du coup, le programme Amis des aînés, c'est vraiment l'idée de se dire, posons-nous. Et par rapport à cette question de l'ingénierie sociale, c'est faire un travail dans le temps long. Et moi, je suis toujours admiratif des territoires qui font le choix de s'impliquer, parce que ils font pas un coup médiatique, ils prennent le temps d'analyser leur territoire, de regarder en fait l'usage qu'ont les habitants âgés de ce territoire, de faire un diagnostic de territoire, de faire une démarche avec les habitants, une démarche participative, on en reparlera. Et puis, à partir de ça, de mettre en place une gouvernance qui est transversale, qui n'est plus simplement que les acteurs qui s'occupent des personnes âgées, mais en fait la politique publique, comment dans l'environnement urbain, l'environnement social, comment quand on réfléchit l'habitat, quand on réfléchit la mobilité, quand on réfléchit la culture, on se pose la question comment les habitants âgés utilisent les services publics, comment ils se trouvent reconnus, parce que les modalités de mise en place de services publics correspondent à leur rythme, à leurs besoins, à leur temps de vie.
Alors, c'est un programme Amis des aînés et ça, c'est un label aussi qui est destiné aux collectivités, c'est ça ?
Alors, effectivement, il y a deux choses. Le programme, c'est se dire, on a compris qu'il y avait ce défi à l'échelle du territoire, quelle que soit la taille du territoire. Et puis, il y a un travail à faire. Je parlais du diagnostic de territoire, de la démarche. De co-construire avec les habitants les choses, ça aboutit à un plan d'action. Et le label, en fait, il permet d'évaluer le chemin parcouru entre le moment où on s'est dit qu'on allait travailler cette question et puis comment on a progressé ensemble pour faire en sorte que la question de comment on regarde les habitants, la question du défi démographique sur le 21e siècle, elle est intégrée concrètement dans la politique publique. Comment on a modifié tout un tas d'organisations le label, il y a 5 grands engagements, 20 sous-engagements, 110 indicateurs, donc c'est quelque chose qui demande un véritable travail de la part des communes qui s'engagent autour de ça. Il y a 4 niveaux de label et le deuxième jour du salon, on aura l'opportunité de labelliser, donc quelque part de rendre hommage au travail qui aura été fait par les élus, par les habitants et par les professionnels. Ça, c'est vraiment important pour nous de montrer qu'il y a un travail qui est collectif, qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est vraiment une aventure commune. Donc, on aura une trentaine de territoires qui seront labellisés. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on sera une centaine de collectivités sur les 350 qui sont dans le réseau, qui seront labellisées. Et ça veut dire que on peut faire autrement. Sans forcément énormément de moyens supplémentaires. Vous parliez tout à l'heure des coûts et du défi économique qu'on a aujourd'hui dans les collectivités. Ce label, il permet aussi de changer des habitudes pour faire différemment et pour adapter les choses pour qu'il y ait une meilleure efficacité.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Parce que là, vous nous avez parlé d'organisations, de communes qui jouent le jeu, qui modifient certaines organisations. Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi ? Les communes qui sont, on va dire, en avance, précurseurs sur ces sujets-là ?
Alors, les communes qui sont en avance, c'est elles font ce travail d'écoute et en fait, elles redécouvrent le territoire. Par exemple, elles vont modifier leur mobilier urbain. pour faire en sorte que le mobilier urbain soit adapté aux différentes générations âgées.
Donc ça peut être quoi, par exemple
Ça peut être mettre des assises debout, ça peut être mettre des fauteuils urbains avec des accoudoirs plutôt que des bancs. Peut être de parfois modifier l'implantation du mobilier urbain. Ça va être de penser les abribus différemment pour que, ils soient posés pas en plein vent. Ça va être de faire en sorte que on va réfléchir autour de la question de l'habitat pour qu'il y ait une gamme d'offres autour de vivre chez soi, mais aussi avec des nouveaux habitats, de l'habitat intergénérationnel, de l'habitat inclusif.
Ça marche bien d'ailleurs, il y a des résidences intergénérationnelles qui sont très en vogue. Alors, il y a plein d'associations qui portent.
Il y a vraiment un mouvement, on va dire, qui fonctionne bien. Ce qui est important, c'est d'avoir ce socle commun, cette culture commune de dire les habitants, on vous apprécie, on compte sur vous, vous êtes une ressource pour votre territoire. Et du coup, les réponses, je dirais, elles deviennent relativement naturelles. Ça va être de modifier, par exemple, les programmes culturels.
Oui. De prendre en compte, en fait, les envies, les besoins de nos aînés.
Et puis, de faire autrement. Je vous donne un exemple. Dans une bibliothèque, vous avez souvent des livres en gros caractères.
Oui.
La question, c'est où est-ce qu'ils sont mis? Est-ce qu'ils sont mis au fond de la bibliothèque et il faut demander et du coup faire remarquer qu'on a du mal à lire? Ou est-ce qu'ils sont mis devant, avec des fauteuils? Il y a une ville, dans son diagnostic territorial, qui a identifié ça. Ils ont augmenté de 30% l'usage des livres en gros caractères parce qu'ils ont changé d'endroit, parce qu'ils ont écouté les habitants qui ne les avaient jamais vus.
Donc, ça peut jouer à peu de choses.
C'est des bonnes idées, toutes simples, mais qui fait que on trouve la solution ensemble. Et c'est aussi important parce que, parmi le nombre d'habitants âgés, il y en a un certain nombre qui vont avoir besoin d'être accompagnés par les CCAS, par les organisations, sanitaires, médico-sociales. Et si on est plus nombreux, il faut sanctuariser quelque part les moyens qu'on a pour accompagner ceux qu'on en a besoin. Et le travail de la démarche Amis des aînés, c'est aussi de faire en sorte de rendre autonomes le plus longtemps possible les habitants. Aujourd'hui, on finance, par exemple, grâce au Fonds d'appui Territoire Innovant Senior, et je remercie la CNSA d'avoir fait ce travail avec le réseau pour permettre que des projets émergent. On va financer le fameux mobilier urbain, mais par exemple des toilettes publiques. D'aller et venir en toute autonomie.
Parce que j'allais dire, il y a de nombreuses communes dont les ressources sont limitées. Là, vous parlez de ce fonds. J'imagine que ça permet justement d'accompagner ces petites communes au fonds limité dans des installations, dans des innovations pour les aînés.
Tout à fait. Alors en fait, petite, moyenne ou grande, parce qu'en réalité, la raréfaction des moyens, elle est importante.
Les temps
sont
durs.
Là où il y a effectivement, un seuil d'accompagnement plus important pour les petits territoires, parce qu'on sait que c'est compliqué pour eux aujourd'hui de trouver les moyens. Une fois qu'on a identifié qu'il y avait des choses à améliorer, c'est important de dire vous êtes soutenu pour les réponses que vous donnez. Donc c'est vrai que ce fonds d'appui Territoire Innovant Senior, il permet de financer l'ingénierie de projet pour aller vers le label et cette démarche. Donc je dirais de travailler cette culture commune. Et puis une fois que le plan d'action est fait, il permet de financer des projets autour de l'information et la communication des habitants. On s'aperçoit qu'en réalité, les habitants âgés, quelque part, ils ont du mal à se retrouver dans la foison d'informations. Donc comment on adapte des outils de communication, des outils d'information qui sont adaptés à l'avancée en âge.
Ils ont peut-être moins accès aussi, ils sont moins sur leur téléphone peut-être, moins sur leur ordinateur.
Tout à fait, et puis je dirais qu'une bonne communication, c'est une communication qui est croisée. C'est-à-dire que ça peut être les nouvelles technologies, mais ça doit être aussi...
Multicanaux.
Oui, multicanaux, c'est aussi avoir des interlocuteurs en face, c'est aussi avoir des documents papier, parce que on a besoin de prendre le temps de comprendre l'environnement dans lequel on est. C'est pas si simple que ça que de vivre à la retraite. C'est du temps libéré, mais ça peut déstabiliser. Et donc, il y a un vrai travail d'accompagnement de l'arrivée à la retraite jusqu'au grand âge qui doit être fait. Et par exemple, dans le fonds d'appui aujourd'hui, on va soutenir des tiers-lieux qui vont donner une place importante aux habitants âgés pour faire en sorte qu'ils soient d'un côté soutenus pour rompre leur isolement, mais aussi pour qu'ils soient, un vivier dans le bénévolat, dans l'engagement. Car on sait que, heureusement, que dans les bénévoles, il y a des retraités, sinon le bénévolat serait bien mal en point.
Stéphanie, alors, on a parlé d'innovation sociale dans le salon. Est-ce que le public des collectivités locales pourra découvrir, justement, des initiatives ciblant les aînés ?
Oui, alors c'est effectivement, alors c'est une thématique sur laquelle on échange depuis un certain temps avec vous, et on a appris beaucoup justement sur ce sujet. Je pense que tout le monde, enfin quand on vous écoute, il y a ça fait tellement sens. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, on est tellement conscient de la diversité de la population, et je pense qu'il y a une conscience beaucoup plus large des collectivités de la nécessité d'adapter les investissements à cette diversité. Les jeunes, les personnes âgées, et encore on pourrait définir à partir de quand, parce que moi les livres avec la grosse écriture ça m'intéresse aussi, hein, qu'ils soient plus
c'est pas que pour les personnes âgées.
Non mais effectivement on peut se demander à partir de quel âge on aborde ce sujet des différents parcours de vie, puisque effectivement c'est aussi ça que nous essayons de travailler, c'est que finalement il n'y a pas trois parcours de vie, mais il y a effectivement un nombre beaucoup plus important. Donc en fait nous on a essayé effectivement d'aborder ce sujet de manière un peu transversale, c'est-à-dire se dire comment aussi cette édition, qui est une fin de mandat, va inspirer le prochain mandat et comment les investissements du prochain mandat vont intégrer plus largement cette thématique, que ce soit dans les préoccupations d'aménagement d'infrastructures, parce qu'on peut aussi parler de mobilité des personnes et des solutions qui sont adaptées. On va parler aussi évidemment de sécurité. C'est un sujet qui revient souvent et qui est aussi une préoccupation de l'ensemble de la population et des personnes âgées également. Possibilité de continuer de sortir de chez soi, de se déplacer en toute sécurité. On va aborder ce sujet aussi sur l'ensemble des services. Les services, c'est pas seulement effectivement la fin de vie ou l'EHPAD, c'est la multiplicité des services qui sont nécessaires et qui doivent évoluer pour être justement adaptés à l'ensemble des parcours de vie, mais les loisirs également. Donc en fait, on va ce sujet de la longévité, il va avoir un lieu de rassemblement qui est un espace de conférence, une atmosphère qui va être dédiée à l'ensemble des acteurs qui ont des solutions, des projets, qui veulent pouvoir aborder ces sujets. Et ensuite, les solutions, elles sont déployées dans l'ensemble du salon. On a incité largement nos exposants à présenter aussi ce qu'ils apportaient comme initiative en la matière. Et puis, on va accueillir des start-up, des associations qui vont être à la disposition des élus et de leurs équipes pour justement pouvoir tracer ces parcours de vie, notamment dans le cadre des programmes et des projets du futur mandat.
Alors justement, concernant les retours d'expérience, les pitchs, les prix de l'innovation territoriale, qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, de ces sessions ? Quel rôle elles vont jouer, en fait, dans la diffusion des solutions QMarche ? C'est vrai qu'on l'a dit, Pierre-Olivier l'a dit, il y a vraiment un manque de communication, en fait. Il y a un manque
de visibilité.
De savoir que ça existe.
Oui, alors tout à fait, mais alors c'est toujours un peu la même chose. En fait, il y a un marketing de la solution. Je parle pas de communication, mais de marketing. Marketing, ça veut dire qu'il faut aussi bien comprendre les cibles à qui ça s'adresse et de pouvoir effectivement le diffuser avec l'ensemble des argumentaires qui vont valoriser à quoi ça sert, combien ça coûte, comment ça marche. Le Salon des maires, il est là pour ça, c'est son rôle. Il est là pour faire la promotion de l'ensemble de ces solutions, mais surtout de faire des solutions qui soient adaptées à tous. Donc nous, on ne cherche pas forcément à faire un coup ou à aller chercher les choses les plus visibles. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de présenter celles qui seront utiles. Et en fait, les solutions et l'innovation sociale, ce sont des solutions qui sont utiles, qu'on peut s'approprier très rapidement. Et donc, c'est notre rôle, en fait, de les mettre en lumière. Le prix de l'innovation a ce rôle-là. C'est toujours un moment très joyeux où on récompense, en fait, le meilleur des projets et des initiatives. Ce sont les élus qui les choisissent, avec une diversité de jurés qui représentent des élus de l'ensemble de nos territoires. Donc ils choisissent eux-mêmes les innovations qui vont être primées. Et après on les suit, sur l'année qui vient, et on se rend compte qu'effectivement, jusqu'à présent, celles qui sont effectivement primées à cette occasion rencontrent un fort succès auprès des collectivités qui viennent aussi assez nombreuses pour découvrir les innovations de l'année. Donc c'est aussi un peu le rôle de cet événement, de les mettre en avant.
Pierre-Olivier, une dernière question, puisque je crois que vous avez un train. Au niveau justement de ce réseau, comment vous allez participer au salon? Est-ce que vous pouvez nous donner des temps forts? Vous avez des espaces dédiés, des interventions, des collaborations justement pour porter cette dimension vie des aînés avec l'agenda des collectivités présentes? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques temps forts?
Oui, alors les temps forts, ça va être le premier jour en fin de matinée, la présentation des lauréats du concours. Ça fait, c'est le 10e anniversaire du concours, ouais. Amis des aînés, et cette année le thème c'était senior, acteur d'aujourd'hui et de demain dans la cité, donc on est vraiment dans la thématique, et donc on présentera 10 territoires qui ont eu des bonnes idées pour avoir des ambassadeurs, pour réfléchir concrètement sur l'habitat de demain, sur apprendre tout au long de la vie, sur l'innovation numérique et comment faire les choses, sur le défi écologique et défi démographique, qui est aussi quelque chose d'important pour pas opposer les générations les unes avec les autres. On présentera aussi le baromètre Ville Amis des Aînés qu'on fait en lien avec Axantia, et c'est la 3e édition. Ce baromètre s'appelle « Ce que veulent les vieux ». Voilà, et c'est le retour de la démarche de tous les territoires qui font des démarches participatives. Donc c'est, je dirais, la synthèse de 7000 personnes qui ont participé dans toute la France à une réflexion sur qu'est-ce qu'ils attendent du territoire.
Parce qu'attendez, quand on fait des changements, quand les communes, quand les collectivités font des changements, il n'y a pas de concertation avec les personnes âgées?
Bien sûr que si, ça fait partie de la démarche, et donc c'est cette concertation qu'on fait remonter au niveau national pour voir les priorités et pour voir aussi les particularités des différents programmes sur les programmes Petite Ville de Demain, Action Cœur de Ville. On présentera aussi un nouveau label qui est le label Village Amis des Aînés, pour s'adapter aussi à la taille des territoires et comment on fait en sorte que, je dirais, chacun trouve sa place par rapport à son organisation territoriale. Et puis, évidemment, on présentera, je l'ai dit, les villes qui sont labellisées, et puis on fera un échange autour du projet de mandat. Comment un territoire pour les 6 ans qui viennent peut être adapté à l'avancée en âge. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour faire en sorte que, je dirais, tous ceux qui sont candidats en 2026 pensent à mettre dans leur programme « on veut être une collectivité amie des aînés », c'est vraiment fondamental pour ensuite être prêt à travailler dès l'élection.
C'est votre souhait pour le salon par rapport à l'objectif, je vous dirais, un des objectifs?
Bien sûr,
par rapport à votre
même si aujourd'hui on est à un peu plus de 380 territoires, ça fait 26 millions d'habitants, en même temps il y a 35 000 communes, donc il y a encore du travail, et on dit vraiment aux élus, n'ayez pas de crainte, la démarche Amis des Aînés, c'est aussi de redonner de la lisibilité à votre action publique, de la compréhension pour les habitants âgés, mais aussi pour leur entourage, donc en fait, pour se sentir mieux à sa place, mieux accueilli. On parle souvent du sentiment d'appartenance au territoire, c'est quelque chose d'important. Et puis, cette démarche, elle lutte contre l'âgisme, cette discrimination liée à l'âge qui ferait qu'on pourrait se dire qu'il y a une génération qui devrait être prioritaire par rapport à une autre. Je l'ai dit au début, le défi, c'est l'équilibre entre les générations et comment on vit les uns avec les autres. C'est vraiment fondamental et c'est sûrement ça le meilleur en commun qu'on doit avoir.
Stéphanie, pour terminer, un mot peut-être pour ceux qui nous regardent, qui hésitent à venir au salon.
Je crois que quand on vous écoute, on a vraiment très envie de venir, donc je vous remercie. Non, c'est effectivement, je pense, un salon qui se concentre sur l'intérêt général, sur nos communs, et je pense qu'en ce moment, on a plus que jamais besoin de se reconcentrer sur ces sujets-là. Le collectif, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Ça réunit, ça rassemble. On a parlé des aînés, mais en fait, autour des aînés, vous le rappeliez, il y a les familles, il y a l'entourage, et ces investissements que vont faire les collectivités, doivent faire les collectivités, c'est aussi au bénéfice de l'ensemble de ces familles, puisque effectivement, voilà, nous sommes responsables de la naissance à la fin de vie, finalement, de nos familles et de ce collectif. Donc, merci. Et ce sont des initiatives, moi, qui me réjouissent. Et en ce moment, je pense qu'on a besoin d'initiatives réjouissantes.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci pour ce partage. Donc, rendez-vous au Salon des Maires du 18 au 20 novembre prochain. Et il y a un site salondesmaires.com. On peut encore s'inscrire, hein, c'est ça?
Bien sûr, on peut s'inscrire jusqu'au bout. Et puis, on peut surtout découvrir le programme. Ce sont plus de 400 conférences, 1400 exposants, associations. Un programme très riche et varié. Il y en a vraiment pour tout le monde. N'hésitez pas à venir rencontrer nos élus et échanger avec les associations voilà, qui œuvrent sur nos territoires. Merci.
Merci à vous deux et donc on se donne rendez-vous au Salon des maires et des collectivités locales. À très vite sur nos antennes.
Le Salon des maires et des collectivités locales à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.